Au cœur de cette émission, il y aura un film documentaire de Ruth Zilbermann sur les mouvements de la dissidence en Europe centrale. Vous entendrez la réalisatrice ainsi qu'un des personnages de son film, Petr Uhl.
Je pense qu'un des avantages de cette époque-là, c'était le fait que nous nous réjouissions d'être ensemble. Notre communauté où l'on pouvait compter sur l'autre, notre solidarité, cela nous a donné beaucoup de force. Nous avions une cause commune et cela nous unissait. Notre communauté, c'était des gens qui savaient quel était leur objectif. Ils savaient qu'ils allaient éventuellement payer pour cela, mais ils étaient conscients que leur liberté intérieure le valait bien. C'était un prix qu'ils étaient prêts à payer. Nous n'avions même pas l'occasion d'avoir des regrets.
Les propos de Dana Němcová, prononcés dans une série de documentaires réalisés par la télévision tchèque il y a 3 ans à l'occasion du 30e anniversaire de la Charte 77, ce fameux appel au respect des droits de l'homme lancé aux autorités communistes. Dana Němcová, née en 1934, psychologue interdite pendant 14 ans d'exercer son métier, épouse du philosophe Jiří Němec et mère de 7 enfants, il a été une des grandes figures du mouvement dissident dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Ce mouvement dissident qui a inspiré la réalisatrice française Ruth Zilbermann a tourné il y a 1 an un remarquable film documentaire sur les mouvements d'opposition contre le régime totalitaire en Tchécoslovaquie, en Pologne et en Hongrie.
Quelques mois avant la chute du mur de Berlin, une clairière au fond des bois, à la frontière de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Une rencontre clandestine qui rassemble des opposants tchécoslovaques et polonais en lutte contre les régimes communistes au pouvoir dans leur pays. Ils se retrouvent, malgré les frontières étroitement surveillées, malgré les polices secrètes qui veillent. Ces conspirateurs de la démocratie, on les appelait dissidents.
C'est par les images tournées et par une photo prise lors de cette rencontre clandestine dans les monts des Géants, en tchèque Krkonoše, que commence le documentaire de Ruth Zilbermann intitulé « Dissidents, les artisans de la liberté ».
Ce film, ça fait très longtemps que je veux le faire et ça fait plusieurs années parce que c'est pas facile d'imposer à la télévision française de parler de l'Europe centrale. Donc j'ai essayé de le faire pendant longtemps et au départ, je voulais évoquer cette histoire de la dissidence, mais je connaissais pas encore l'existence de la photo. Ensuite, j'ai lu un article d'Adam Michnik qui parlait du départ de Václav Havel de la présidence de la République, et son article était illustré par cette photo, et bien entendu, ça s'est imposé à moi comme une évidence. Il faut faire le film à partir de cette photo. Et donc ça, c'était bien avant même la mise en production du film. Donc la photo était là dès le départ. Et pendant les repérages, Anna Chabatova m'a montré un film vidéo qui avait été tourné par le Vidéojournal de cette rencontre. Et bien entendu, voilà, ça c'était quelque chose de merveilleux pour moi de me dire que cette photo pouvait être relayée par ce film d'archives en couleur, extrêmement émouvant. Et donc, oui, j'ai tourné le film en ayant à l'esprit que d'une part la photo, cette photo noir et blanc, et d'autre part ce film en couleur, des couleurs un petit peu baveuses comme on en tournait dans la vidéo comme ça des années 80, allait être bien entendu le fil rouge du film. C'était un a priori de construction en somme.
Comment avez-vous en fait choisi vos interlocuteurs dans les 3 pays?
D'une part, il y a des gens qui sont présents sur la photo. Et ensuite, je savais qu'il y avait des personnes qui étaient présentes sur la photo, comme Jacek Couronne qui est mort, etc., que je les évoquerais uniquement en archives. Et j'ai aussi choisi, il y a par exemple dans le film on évoque la Hongrie, il n'y a pas de Hongrois sur la photo, mais pour moi la photo était un symbole, c'est-à-dire que bien entendu je voulais qu'il y ait des gens de la photo, mais je savais que j'aurais besoin qu'il n'y ait de personnes qui n'y figuraient pas, mais qui étaient symboliquement là finalement, pour tenter malgré tout d'évoquer... Sans pouvoir parvenir à l'exhaustivité, bien entendu, mais malgré tout, je voulais quelque chose d'assez représentatif de ce qu'avait pu être la dissidence dans ces trois pays. Donc, il y a par exemple le Hongrois, Laszlo Rajk et Miklós Jarasztyi qui ne figurent pas sur cette photo. Il y a Karol Modzelewski, qui est un Polonais, qui était avec Jacek Kouroń, une des personnalités fondatrices de l'opposition polonaise, qui n'est pas sur la photo, mais je savais d'emblée, bien entendu, qui figurerait dans le film.
Dans le film apparaît côté tchécoslovaque Petr Hůl, son épouse Anna Šabatová et son beau-père Jaroslav Šabata, les trois étant très actifs au sein du mouvement de la Charte 77. Petr Hůl, 69 ans, a passé au total 9 ans dans les prisons communistes. Après la chute du régime, il a continué à s'engager dans la vie politique et publique. Petr Hůl et Anna Šabatová ont assisté, aux côtés de Václav Havel ou du prêtre Václav Malý, à la rencontre des opposants tchèques et polonais dans les Monts des Géants. Comment ces rencontres secrètes étaient-elles organisées, Petr Hůl?
La bureaucratie soviétique, et bien sûr celle de Prague, de Varsovie, de Budapest, et ainsi de suite, a fait tout pour nous diviser, pour que le développement contestataire ou de protestation, etc., ne soit pas harmonisé, ne soit pas coordonné. Et c'est pourquoi nous étions fermés dans nos pays, déjà de la Tchécoslovaquie, mais surtout de la Pologne et de la Hongrie, les oppositionnels, ou plutôt les gens qui étaient indépendants, pouvaient plus facilement sortir à l'ouest que dans les pays voisins. Et c'est pourquoi nous avons fait tout pour nous rencontrer, par exemple, à la frontière, dans les montagnes. On a envoyé les envoyés spéciaux, si je peux le dire comme ça, qui avaient les passeports ou la possibilité de partir. Et nous avons fait tout pour coordonner nos activités.
Et je voudrais savoir comment ça s'est passé techniquement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de portable. Oui. Vous étiez suivi par la police secrète. Comment vous êtes arrivé à rester en contact, à organiser ces rencontres, comme par exemple à la montagne?
C'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, bien sûr. Il a fallu envoyer quelqu'un en Pologne. Nous avons eu des contacts avec les Polonais qui vivaient à Prague et qui sont allés chez eux, et ils ont fixé, disons, avec ils ont parlé avec nos amis polonais, par exemple à Wrocław, c'est Bratislava en tchèque. C'est une grande ville, 500 000 d'habitants en Silésie, et de là-bas on a fixé les dates, les lieux, etc. Les Polonais, nos amis polonais, ont eu parmi eux aussi les guides de montagne, par exemple, des monts, des géants, et qui l'ont préparé. Alors, mais c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Et je me souviens, lorsqu'on m'a transporté en prison pour 2 jours, comme habituellement, c'était assez souvent, c'était 2-3 fois par an, et nous sommes allés en voiture par le pont qui s'appelait à l'époque pont Clement Gottwald. Il y avait une grande publicité, une plaque de publicité sur Xerox ou Toshiba, je me souviens plus. Et j'ai dit aux flics qui étaient avec moi en voiture, et voyez, pas nous, mais ça sera la fin de vos activités, de votre pouvoir. Ça va vous tuer finalement. Et c'était un an avant la révolution de velours, alors, mais c'était ça, parce que déjà à l'époque, nous avons eu les premiers, par exemple, ça s'appelle fax, c'est-à-dire télécopie, on dit, en français, je pense. J'avais une adresse à la poste centrale et je suis allé là-bas pour envoyer les textes écrits par la télécopie. Et un facteur spécial comme, qui donnait normalement les télégrammes est venu une ou deux fois par jour chez moi dans mon appartement de m'apporter les textes télécopiés de Vilnius, Vilnius, de Lituanie, de Varsovie, de Budapest, etc., de Berlin. Nous avons eu déjà, 6 mois avant la révolution de velours, les premiers ordinateurs. Ça s'appelait Amstrad, ou Amstrad, c'était français. Et c'était envoyé secrètement pour que la police ne le sache.
Depuis la France?
Oui, depuis la France.
Z naszej strony jest propozycja porozmawiania o pomyśle wspólnego zjazdu.
Vous écoutez le programme spécial de Radio Prague consacré au 21e anniversaire de la révolution de velours du 17 novembre 1989 avec comme invité Ruth Zilbermann, réalisatrice du film documentaire Dissident, les artisans de la liberté sur la dissidence tchèque, slovaque, polonaise et hongroise, et Petr Uhl, une des grandes figures de la charte 77. Peut-on distinguer les différences entre les mouvements d'opposition anticommuniste dans les trois pays en question, Ruth Zilbermann?
Déjà, c'est une distinction numérique, c'est-à-dire que, évidemment, en plus, c'était vraiment dans des contextes politiques malgré tout un petit peu différents, mais enfin, ce qui est flagrant, c'est bien entendu qu'en Pologne, ça a eu une ampleur, il y a eu une vraie création d'une Pologne parallèle, ce qui n'a jamais été le cas ni en Hongrie, ni surtout en Tchécoslovaquie, où vraiment la question numérique de la dissidence, c'est-à-dire la dissidence, c'était un... Alors on lui a reproché d'être un ghetto d'intellectuels de 200 personnes. Donc c'est sûr qu'elle n'a jamais été en lien avec la société civile comme ça a pu l'être en Pologne. Par ailleurs, en Pologne, c'était évidemment aussi soutenu par une opposition naturelle qui était l'opposition catholique. Voilà, ça je pense que c'est la grande distinction entre une opposition qui a des ramifications dans la société civile de façon extrêmement profonde et une dissidence qu'on a pu qualifier de ghetto et qui reste finalement cloîtrée à quelques centaines d'intellectuels. Voilà, mais donc ça c'est à mon avis la principale distinction. Sinon, j'ai quand même le sentiment que... Enfin, c'est pas simplement mon sentiment d'ailleurs, mais que, comme je vous le disais au début, il y a un vrai lien, il y a un vrai lien intellectuel entre ces trois dissidences, entre Michnik, Havel et Arasti. Il y a donc polonais, tchécoslovaque et hongrois. Il y a un vrai lien, il y a les mêmes types de références qui peuvent circuler d'un pays à l'autre.
Vous avez tourné à Prague, à Budapest, à Varsovie. Est-ce que l'ambiance lors du tournage a changé d'un pays à l'autre?
Oui, c'était différent. C'est-à-dire que moi, j'étais différente. Parce que, par exemple, Prague, je connaissais mieux. J'étais déjà venue. Je connaissais bien la République tchèque. Donc, évidemment, je m'attendais plus à un certain nombre de choses, alors que la Pologne, j'étais jamais allée avant. Et c'est vrai que ça a été pour moi des rencontres très très fortes, très émotionnelles. Et puis je pense aussi que puis il y avait peut-être, enfin ça c'est des généralisations, mais il y a peut-être des caractères nationaux. J'ai eu l'impression qu'en Pologne les choses étaient peut-être un petit peu plus vivantes, alors qu'à Prague, bon, il y a quelque chose de plus calme dans l'évocation de cette histoire. J'ai été frappée. C'est vrai que ça a été particulièrement intense en Pologne pour moi. Les rencontres ont été très fortes, très intenses, parce que j'ai l'impression que peut-être est-ce lié au fait qu'en Pologne, malgré tout, le mouvement de la dissidence a été ensuite relayé par un mouvement beaucoup plus populaire, incarné par Solidarność. Mais par exemple, la première fois où je suis arrivée en Pologne pour des repérages, c'était le jour de l'enterrement de Bronisław Geremek, qui venait de mourir dans un accident de voiture. C'était le jour de ses funérailles. J'ai rencontré à cette occasion... une ou deux personnes qui interviennent dans le film. Et c'est vrai que tout était presque à l'état, voilà, il y avait quelque chose d'extrêmement à vif, d'extrêmement émotionnel de cette histoire qui est, voilà, j'ai l'impression qu'en République tchèque, il y a quelque chose peut-être de plus, c'est peut-être plus relégué dans les couloirs du passé qu'en Pologne.
Pour les dissidents tchécoslovaques, la Pologne fait en quelque sorte figure d'exemple. Petr Hul, qui est resté en contact avec ses amis polonais, hongrois et aussi allemands de l'époque, raconte.
En Pologne, il y avait une forte tradition de la lutte pour la liberté, pour l'indépendance nationale, etc. Il y avait des relations, des rapports très négatifs vis-à-vis des Russes et des Allemands, même nationalistes, mais de l'autre côté, ce qui était très positif, c'était l'auto-organisation des Polonais sur le plan des protestations, de l'enseignement parallèle, qui n'était pas un enseignement d'État, université parallèle, c'était un truc polonais. Et puis, il y avait, c'était surtout l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a causé, disons, qui a cultivé ces gestes ou ces mouvements de contestation en Pologne. Alors, c'était les Polonais, c'était nos maîtres, nos instituteurs. On a vraiment essayé, on a toujours pensé si on peut le faire entrer aussi, l'appliquer, les méthodes n'importe quelles, les grèves, les tracts, quoi que ce soit, si on peut l'appliquer aussi chez nous en Tchécoslovaquie.
Est-ce qu'il y avait une singularité des Tchèques et des Slovaques?
Oui, les Slovaques étaient moins engagés, c'est-à-dire les indépendants slovaques étaient beaucoup moins engagés dans la charte de 77. Ils sont alliés un peu plus tard aussi, sur le plan des mouvements, des masses ou de grands groupes. Et surtout, ils se sont engagés surtout dans le domaine de la liberté religieuse, parce que la Slovaquie est catholique de 50% peut-être. Ils s'occupaient beaucoup, par exemple, de la culture indépendante, aussi de la protection de l'environnement.
Petr Hul a été emprisonné à deux reprises par les autorités totalitaires au début et à la fin des années 1970. Dans le documentaire de Ruth Zilbermann, il évoque cette expérience ainsi que son retour difficile de la prison en 1973, à l'époque de la normalisation. On l'écoute.
C'était très dur pour moi parce que je rentrais dans une situation de normalisation qui était beaucoup pire que la situation en 69 lorsque j'étais encore en liberté. Et c'était un peu une situation désespérée parce que la société s'est embourgeoisée, s'est laissée isolée, on est entré dans un isolement et dans une privatisation des intérêts. Mais peu à peu, nous avons, il s'est créé à Prague et ailleurs, une ambiance, si vous voulez, militante ou combative. Et nous avons fondé en 76, vers la fin de 76, nous avons fondé la charte 77, c'est-à-dire la charte, 77. Et lorsque j'étais arrêté en 79 pour 5 ans, et je suis rentré dans la charte qui était plus loin qu'avant, qui était plus forte déjà, il y avait moins de répression et il y avait surtout beaucoup d'autres initiatives et beaucoup d'autres activités sur le plan culturel, politique, environnemental, religieux, tout ce que vous voulez. Alors, la rentrée, la deuxième rentrée en 84, ce n'était pas psychologiquement, sur le plan politique au moins, ou sur le plan de mes activités publiques, ce n'était pas un problème. Le problème était 10 ans avant.
Retour avec la réalisatrice Ruth Zilberman sur la dernière scène de son film « Dissident, les artisans de la liberté », une scène qui se passe en Pologne mais décrit une certaine ambiance post-communiste, commune peut-être à tous les pays de l'ancien bloc soviétique.
On accompagnait Zbigniew Bujak, qui était vraiment une figure extrêmement importante de solidarité, et puis qui a été le leader de solidarité dans la clandestinité, qui était donc au départ un ouvrier d'une usine, de l'usine Ursus, et qui donc revient avec nous sur cette usine Ursus, qui est maintenant complètement décatie, à moitié privatisée, etc. Et la scène en question, c'est qu'en gros, on se fait virer de cette usine par un gardien, qui en même temps reconnaît tout à fait Bujak, qui en même temps lui dit merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais enfin je suis obligée de le faire, partez. Et c'est vrai que c'est une scène en la tournant, on était un petit peu sous le choc, Bujak était sous le choc. Cette scène elle me dit plein de choses, c'est-à-dire d'abord il y a ce type qui dit comme pendant 40 ans, excusez-moi, je peux pas faire autrement. Alors qu'il aurait tout à fait pu faire autrement, bien entendu. Donc c'était une posture finalement qui m'amusait parce qu'elle était comme l'écho de ce qui s'était passé auparavant. C'est vrai que il y a une forme d'amertume dans cette scène. Il y a une forme de tristesse. Et en même temps, pour moi, cette scène, elle est une ouverture. C'est-à-dire, voilà, en effet, on se souvient pas des héros. Les héros passent, on les jette. Mais c'est pas grave. Ça continue. C'est pas grave qu'il y ait pas de qu'on leur rende pas hommage, que c'est parce que elle est à l'image de ce film, c'est-à-dire les gens, ils ont pas fait ça pour plus tard être héroïfiés ou déifiés ou que sais-je. C'est juste que dans ce moment-là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et que maintenant en somme, c'est à nous de continuer ce qu'on a à faire. Voilà, donc c'est pour ça que cette scène me plaisait. Elle était à la fois, parce que on peut pas terminer quand même sur des photos en 1989, tout va bien, c'est l'avènement de la démocratie, les choses sont bien évidemment beaucoup plus compliquées, et en même temps, ça continue. Voilà.